histoire, elle commence, je dirais, par un ensemble d'envies individuelles qui sont devenues une envie collective.
Je dirais politiquement, ça vient plutôt d'un sentiment de révolte par rapport au monde dans lequel on évolue.
Comment est-ce qu'on se positionne dans la société actuelle? Quel pourrait être notre rôle? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour participer à créer la société dont on a envie?
C'est l'envie de faire mieux, l'envie de faire quelque chose de communautaire, l'envie de faire quelque chose d'égalitaire et l'envie de faire quelque chose de créatif, d'amusant, dans lequel tu peux essayer des trucs.
C'est la collectivité, c'est la terre non béton et tout le monde a besoin.
Moi j'ai l'impression que c'est une arme en fait, le fait de pouvoir parler de ce qui se vit là, que les gens se rendent compte que ce soit possible, qu'il y a un processus en cours, c'est ça que j'entends par des armes.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, Sarah Lefebvre.
Commun, commune, épisode 3.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Bonjour à tous. Entre béton et bitume, aux abords des trottoirs et dans les fissures de nos rues, poussent en liberté les mauvaises herbes. Mauvaises, ces herbes spontanées sont aussi dites folles ou sauvages. D'autres les appellent encore les plantes courageuses. Dans l'ouvrage collectif « Éloge des mauvaises herbes, ce que nous devons à la ZAD » paru en 2020, une quinzaine d'auteurs, activistes, écrivains, intellectuels font le lien entre ces effractions de nature et les ZAD. Depuis plus de 10 ans en France, ces zones à défendre ont fleuri contre le béton et ses méga-projets. Des collectifs autonomes qui bousculent l'ordre établi en occupant les terrains sans droit ni titre. La plus emblématique des ZAD est celle de Notre-Dame-des-Landes qui, près de Nantes, a fait reculer le fameux projet d'aéroport et dont la violence de l'évacuation policière en 2018 est restée dans les mémoires. Pour le troisième et dernier épisode de notre voyage à la rencontre de celles et ceux qui inventent d'autres manières d'habiter le monde et de faire commun, Sarah Lefebvre nous emmène dans un de ces espaces en lutte. Le quartier libre des Lentillères, né il y a 10 ans, à Côte-Bêche, contre un vaste projet immobilier. Il est situé à Dijon et comme toutes les herbes folles, il a poussé dans un interstice de la ville.
Alors les Lentillères, en gros... Ça a ce côté magique pour moi où t'es en ville, quoi, parce que Dijon, voilà, c'est une ville. Et donc tu t'éloignes un peu du centre-ville, comme ça, en plus par un boulevard assez charmant, avec des platanes, où il y a des pistes cyclables, où c'est en fait l'espèce de balade du dimanche. Enfin voilà, donc tu prends ces allées et en fait t'arrives sur un boulevard, et donc là t'arrives à un rond-point où il y a les voies ferrées qui passent au-dessus. Donc t'as cette rue-là donc, qui longe la voie ferrée et en fait après t'en as une autre qui ressemble plus à une rue pavillonnaire, on va dire. En fait ces deux rues, elles dessinent un triangle en fait et c'est l'intérieur de ce triangle qui est les Lentillères.
Une rue étroite, la rue Philippe Guignard, le long de la ligne de chemin de fer. Un mur à droite, graffé. Avec des renards notamment, les yeux bandés. On est le long du quartier des Lentillères et c'est là qu'on peut rentrer.
Là déjà, t'as un espèce d'accès comme ça à une zone avec en friche, avec de la verdure, des arbres. Et du coup, ça fait déjà un peu bizarre. Tu te dirais quoi, c'est un peu le bordel là. Enfin, c'est un truc beaucoup moins quadrillé que l'espace urbain ailleurs à Dijon. Je sais pas comment dire. Par exemple, quand c'est la canicule en été, t'arrives là, dans ces deux rues-là, et il fait frais. Et du coup, je sais pas, il y a un truc comme ça, complètement dingue, où tu sors de l'espèce de goudron bouillant comme ça, là, et je sais pas, il y a plein d'oiseaux, du coup, c'est bruyant, mais c'est bruyant pas comme la ville, quoi. C'est bruyant vraiment autrement, quoi. C'est une succession de petits chemins, de petites maisons, de grandes cultures, de petits jardins. Voilà, donc les Lentillères, c'est un peu ça, quoi. C'est plein de couleurs, c'est des hérissons, c'est des écureuils, c'est des oiseaux. C'est un endroit où t'as plein de gens qui amènent des matériaux de récup parce qu'il y a une éthique de la construction où en fait on ne veut pas acheter ou le moins possible. Et donc du coup, en fait, on récupère des matériaux déjà utilisés pour construire des cabanes, voilà quoi. Ce triangle-là, c'est pas la métropole. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent le détruire. Parce qu'en fait, c'est une logique qui leur échappe, quoi.
Sasha, quantos árboles hay acá? C'était du caca humain, que maintenant s'appelle du fumant.
C'est du caca?
Avant, c'était du caca et là, il est composté.
Mais les toilettes, les roches.
C'est. On fait quoi, Anouk?
On est venu nous planter des arbres.
Ouais, trop bien.
Des pommiers, des pruneaux.
Pruneau, non? Bah, prunier.
Des cuniers.
Il a pêché, là.
Il est là, là.
Ah, c'est un arbre, ça? Il va donner quoi comme fruit, celui-là?
Il va donner des pommes.
Des pommes, tu crois? Qui vont sortir de ça?
C'est un pommier.
C'est un pommier, ça?
Oui.
Ah oui? Alors, on essaye de le planter?
Abricotier polonais. Nickel.
Ouais, c'est ça.
On m'apprend celle-ci, du coup.
Et là, je ne suis pas en mesure de savoir. Parce qu'on apprend tout, en fait. Ça rien, je ne vais pas faire
qu'est-ce qui se passe là?
Eh bien, c'est une journée, c'est plusieurs choses. C'est pour fêter l'anniversaire de la victoire de l'abandon du projet d'éco-quartier qui menaçait le jardin.
En 2019.
Et là, on se retrouve à. Ça coïncide hyper bien, parce que le 25, c'est la Sainte-Catherine, où tout arbre prend racine. Donc on se dit que c'est une coïncidence très significative. Puisque nous, on a récupéré des fruitiers là, pendant le confinement. C'est un ami qui a récupéré 130 pieds de fruitiers qu'on a mis en jauge ici. Donc là, on dispatche une partie des fruitiers qui sont restés en jauge jusqu'à maintenant. Et on avait prévu de façon de faire cet événement. Et on en donne aussi. On en donne pas mal.
Ça fait longtemps que tu es là, toi ?
J'étais à Dijon quand il y a eu l'ouverture du premier petit bout des lentières. J'étais venu à la manifestation et j'ai toujours suivi de près, en fait, avec attention, ce qui se passait au quartier des lentières et à Dijon, autour de ça. Et après, je me suis barré ailleurs, en France, et je suis revenu en 2016. Et c'est assez marrant, si tu veux, parce que moi, j'étais salarié et j'ai vraiment rompu mon contrat de travail dans la dynamique du mouvement contre la loi travail. Parce que je me disais, ça y est, c'est l'émeute, c'est l'heure, c'est le moment où il peut se passer quelque chose d'intéressant dans la rue. Et quand j'ai rompu mon contrat, c'était dans l'idée de venir un peu ici. En me disant, après tout, parce que moi je suis quelqu'un qui vit en ville, j'ai pas mon permis. Et je me disais, il est hors de question que je vive en ville sans qu'il y ait un espace de, un peu naturel ou vert, on va dire, conséquent, quoi. Et surtout avec une gestion comme celle qu'il y a au quartier des Lentières, qui se veut autogestionnaire. Et je pense que c'est en grande partie pour ça que je suis à Dijon. C'est le quartier des Lentières qui m'a fait revenir à Dijon.
Appuie avec tout ton corps, sur les pieds. Bravo! Allez, on recommence. Sacha, tu veux le faire? Vas-y.
Allez, il est collé.
Il est collé.
Moi aussi, il est collé. Ça va?
Là, vous êtes cerné par les travaux. Il y a des bennes, plein d'engins de chantier qui s'activent tout autour des lentières. Vous en êtes où de la lutte ?
Il y a le menace d'expulsion. Mais c'est un peu différent maintenant parce que ce lieu ici, c'était prévu d'être l'espace pour le phase 2 de ce éco-quartier. Ce projet était annulé, mais... nous n'avons pas encore le droit de rester ici.
Donc la phase 2 du projet qui devait avoir lieu ici est annulée.
C'est ça.
Il n'y aura pas d'éco-quartier sur la zone aujourd'hui occupée par les lentillères.
Non.
Mais par contre, vous n'êtes pas les bienvenus.
Non, par contre, la mairie veut que ce lieu reste un lieu potager, on peut dire ça, mais pas avec des habitants. Et nous sommes en communauté maintenant de à peu près de 70 habitants. Et il y a peut-être 70 aussi gens qui viennent pour faire leur petit jardin et tout ça. Donc nous qui vivons ici, nous voulons rester ici et continuer de vivre ici et continuer d'animer ce lieu.
Et toi, Nico, tu viens d'où ?
Je viens d'Angleterre.
Et t'es arrivée quand ici ?
Il y a 3 ans et demi, à peu près. Oui.
T'avais entendu parler des lentillères et t'es venue exprès ou...
À cette époque-là, j'ai passé beaucoup de temps à Calais, dans la jungle qui était là à cette époque-là. Et j'étais un peu sur la route. Après, à ce moment-là, je cherchais pour un lieu un peu en lutte, mais quand même plus stable que la lutte à Calais. Et moi, j'ai trouvé qu'ici, c'était vraiment ça. Mais aussi une lutte où j'ai trouvé qu'il y avait encore beaucoup de joie. Parce qu'il y a, par exemple, plein de fêtes entre nous ici, plein de choses assez créatives. Donc, c'est une lutte, mais souvent... avec un peu de légèreté. On va aller récolter un peu de damette. Ça, c'est le jardin de Marichet. Je crois que c'était établi il y a 8 ans. L'idée... c'est encore de produire des légumes pour nous qui vivons ici, pour un marché qui est hebdomadaire pour la moitié de l'année, pour soutenir des projets radicaux.
Qui a lieu le jeudi soir.
C'est jeudi soir. À la fin de chaque saison, nous donnons l'argent qu'on prend de la marché pour soutenir des autres projets autour de nous.
Et c'est un marché à prix libre.
C'est un marché à prix libre. Ça veut dire que c'est des clients, entre guillemets, qui décident le prix. Et on essaie de dire que c'est pas forcément le prix, un prix pour les légumes, mais c'est plutôt un prix en donne pour soutenir le lentier et le projet.
Basilic.
Ok.
L'oseille,
oui, ça va.
Basilic, thym, de la sarriette, romarin, ciboulette, aneth.
Bah, je prends un petit truc de ciboulette, s'il vous plaît.
Ah oui, d'accord.
Au hasard, la mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments, les drapeaux rouges sont remplacés par la terreur de tous les chenaux, la bande bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui, mais ça brûle dans le manche, les mauvais jours, ils n'iront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les
pauvres s'y mettront, bon, bon. Bravo, c'est trop beau. On va prendre le chemin des ronces.
Ouais.
C'est ça, Marianne.
Ouais, on a trouvé ce petit, comment dire, ce petit truc de signalétique qui indiquait le chemin des ronces dans je sais pas quelle ville et du coup il a été ramené ici pour montrer le chemin qui va vers les ronces, qui est la maison qu'on a construite l'année 2016 à un endroit qui était juste un petit champ de ronces, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé les ronces. Donc on voit que toute la façade, elle est blanche parce que c'est un revêtement en terre et en chaux surtout.
Et vous avez mis combien de temps à la construire cette maison ?
On a commencé l'hiver 2015, un peu sous la pluie, et on a mis à peu près un an. On l'a construite avec un mélange de matériaux. On avait peu d'argent, du coup, vraiment avec de la récup. Et aussi, moi, je connais un peu de pratiques qu'on appelle l'éco-construction. J'ai un peu appris ça, notamment dans des chantiers féministes, mais pas que, aussi en lisant des bouquins. Et donc, on a construit cette maison beaucoup en bottes de paille et en terre. Donc, c'est une maison qui, je pense, peut-être nous a coûté, je ne sais pas moi, 2000 euros à construire, ce qui est ridicule, et qui fait 50 mètres carrés au sol.
Donc ça, c'est la maison commune. C'est là où vous vous retrouvez pour cuisiner, pour déjeuner, dîner ensemble.
Ouais, c'est ça. Et avant la naissance de Sacha, on a construit une salle de bain à l'intérieur, une toute petite salle de bain au moins pour pouvoir se laver et avoir une machine à laver. Ouais, on aime bien cette maison. Je pense que c'est aussi un des trucs qui nous lie dans notre collectif, de sentir que voilà, on est attaché à cette maison et on est contente d'y être ensemble et on s'y sent bien quoi dedans. Mm.
Il y a une douzaine de ce qu'on appelle des petits collectifs qui fonctionnent de cette manière-là, avec un lieu central qui est une maison en dur, qui peut être une maison ancienne retapée ou bien une grosse cabane, comme pour nous c'est le cas, et autour des espaces privatifs qui peuvent être des petites cabanes, une roulotte comme pour moi, une yourte, une caravane, et qui sont là où on a, on va dire, nos chambres, quoi. Et après, c'est aussi, selon les collectifs, des manières très différentes de vivre ensemble. Nous, je crois qu'au Ronce, on n'aspire pas forcément à avoir une famille telle qu'on l'entend habituellement, avec des parents, souvent un couple hétérosexuel et des enfants. Mais par contre, on aspire à avoir une forme d'engagement liée à l'amitié, et où aussi on s'occupe entre copines de Sacha qui a 2 ans. Donc ça fait aussi partie de ce projet. C'est aussi associé à une vision un peu politique, quoi, d'essayer de vivre des formes d'utopie au quotidien ensemble. Il faut réapprendre cette forme d'engagement au quotidien et aussi à prendre soin des autres quand elles vont pas bien. Je crois que c'est une dimension importante. Je fais partie des gens qui, il y a 10 ans, avec tout un tas de collectifs et d'associations dijonnaises, ont organisé une manifestation et commencé à défricher ces terres qui étaient à l'abandon.
C'était quoi ici avant ?
Avant, c'était une zone de maraîchage à l'abandon, comme sans doute dans beaucoup de grandes villes, ce qu'on appelle un peu la ceinture maraîchère, qui était un peu la périphérie de la ville avant qu'elle se fasse trop rongée par l'urbanisation. C'était un peu une zone en friche, quoi. Et en fait, il y a eu une rencontre entre des gens plutôt d'une culture comme moi, squatteur, squatteuse, punk, qui est un peu débrouillard et aussi qui n'ont pas forcément peur de l'illégalité pour revendiquer des droits. Donc une rencontre de ces personnes-là avec des personnes plus de réseaux associatifs militants et notamment pour un lien plus direct entre consommateurs et producteurs et petits producteurs. D'un coup, ça fait que beaucoup de personnes ont été plus sensible à la question de l'autonomie alimentaire, à la question des circuits courts, et qu'en même temps, il y avait une grosse demande de personnes, mais il n'y avait pas suffisamment de terres agricoles à disposition pour ces petits maraîchers maraîchères. Et donc, il y a une rencontre entre tous ces gens et l'idée de squatter symboliquement ces terres qui étaient à l'abandon. Donc, on a organisé une manifestation en mars 2010. Cette manifestation, Fourche en main, où il y a 100 à 200 personnes sous la pluie qui se retrouvent en ville et qui marchent jusqu'à cette zone en friche. Et on commence à défricher directement et à planter des choses au milieu de gens qui continuent à défricher, à retourner la terre. Tout ça sous la pluie et accompagné d'une batucada, une fanfare de lutte qui nous accompagnait et nous donnait une force incroyable. s'imaginait pas que ça pourrait durer. À l'époque, le mouvement des ZAD, comme à Notre-Dame-des-Landes, contre le projet d'aéroport, l'idée d'occuper des terres pour lutter contre un projet jugé inutile ou un projet qui dessert juste des intérêts capitalistes, économiques, cette idée-là, elle n'était pas encore très répandue en France. Et donc, c'était quelque chose d'un peu nouveau et on n'avait pas vraiment de représentation de ce que ça allait faire. Et assez vite, il y a un collectif qui s'est constitué autour de ce jardin. Et on a tenu ce jardin qui s'est appelé le Pot-Col, comme potager collectif des lentillères. Et voilà, ça a continué comme ça pendant un an, deux ans, et avec toujours la peur de cette précarité, de la menace. Mais notre manière de contrebalancer ça, c'était avec une vision de lutte, de se dire que en créant un rapport de force qui nous est favorable, parce qu'on pense que c'est vraiment légitime de défendre ces terres, d'autant qu'il y avait un projet urbanistique qui les menaçait. Donc en créant un rapport de force, en faisant des interventions publiques dans la ville, en n'hésitant pas à faire exister ces problèmes dans les conseils municipaux, à les chahuter parfois, et ben peu à peu, ça a fait que plein de gens se sont intéressés à cet endroit et que finalement, de plus en plus de gens nous soutenaient. Et sans doute que c'est ça qui explique le fait que, malgré cette illégalité, la mairie n'est que très peu intervenue. Mais en tout cas, pas suffisamment pour mettre à mal cette dynamique. Et à ça aussi, c'est peu à peu ajouter la dimension de l'habitat. Et aussi une dimension qu'on peut dire d'accueil pour des personnes qui sont dans le besoin, qui sont précaires. Et ça, c'est aussi une grande part de la dimension des lentillères, avec beaucoup de personnes touareg, beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique centrale, et aussi des personnes roms. Donc ça apporte une grande diversité de gens, toutes ces couches-là. Et donc auxquelles se surajoutent plein d'autres couches de personnes qui ne vivent pas forcément ici, mais finalement qui passent tous les jours. Des personnes retraitées, dont ça fait partie de la routine de passer chaque matin, de vérifier si les jardins vont bien, si la cabane tient toujours, mais aussi des jardiniers et jardinières. C'est plusieurs dizaines, voire une centaine de personnes, je ne sais pas. Et ouais, je crois que c'est une dimension importante.
En ce moment, je bosse à Beaune, j'empile des cailloux. Je fais la pierre sèche.
Ah, c'est cool. Ah, j'adore la pierre sèche.
Ah ouais, ouais. En ce moment, c'est un peu...
En ce moment, ça doit être chiant à faire. Ouais. C'est beau, mais il
quand il fait froid, là. Quand il fait froid, surtout le matin, à 11h.
Ah ouais, ça
les pierres sont jaunes, en coton.
C'est un coup à perdre ses doigts.
C'est clair.
Ouais. Et je supporte mal le froid.
Ah ouais. Ah, tu m'étonnes, t'es pas
ouais.
La bonne période pour
aller. Ouais.
Donc moi, c'est Clémence Torres. Je suis sur Dijon depuis à peu près un mois. Mon premier week-end que j'ai passé à Dijon, je suis venue ici tout de suite parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, de venir aider des endroits comme les lentillères. Et là, aujourd'hui, c'est rénovation de la petite cabane du Fournil.
Et moi, je m'appelle Keita Aboubakar, je suis migrant. Ça fait 5 ans que je suis en France, 3 ans que je suis aux lentillères. Et j'ai connu les lentillères à travers un ami qui habitait ici. Puis, j'étais en galère, je suis juste venu pour un bout de temps. Et petit à petit, j'ai commencé à rencontrer les gens et puis à commencer à faire les activités. Et du coup, je me suis retrouvé dans mon ancien élément, en fait, tout ce qui est vie communautaire, les activités sans programmation, forcément attendre quelque chose de l'autre, en fait. Donc du coup, ça m'a beaucoup plu et je suis resté aux lentillères. Aujourd'hui, je suis en train de aider à retaper l'ancienne cabane de Fred qui sert aujourd'hui pour faire du pain et de pizza.
Et tu avais vécu en communauté avant la vie ici aux lentillères?
En France, non. Toute ma vie au Mali. on vit en communauté, en fait. Dans une famille, on peut retrouver 4-5 familles dans la même famille, en fait. Du coup, on vit tout le temps ensemble, on grandit avec les cousins, puis voilà, quoi.
Et ici, tu vis où, au Lentière?
Et je vis au Ali Baba, je ne sais pas si vous savez où c'est.
Juste et, derrière?
Ouais, juste derrière, oui. Et puis, ouais, je vis là-bas.
Et vous êtes combien?
Ali Baba, ouais, à peu près une dizaine. Une dizaine. Dès que j'ai un peu de temps de libre, quand je suis ici, du coup, voilà, je me renseigne, il y a quoi comme activité, et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je fais ce qu'il y a à faire, quoi.
Et tu as envie de rester là longtemps? Ou c'est un endroit plutôt de passage pour toi? Tu envisages ça comment?
Au départ, ouais, c'était juste un endroit de passage, au fait. Mais après, je vois ici comme vraiment un endroit pour moi. Je retrouve la vie que j'aimerais vivre, en fait. Mais moi, personnellement, moi, je vois ici comme un endroit réel, pas éphémère, vrai. Par rapport au choc que j'ai eu à mon arrivée ici en France il y a 5 ans. Ici, on peut voir une personne tout de suite, et puis quelques minutes après, on se connaît vraiment, quoi, en fait. On se dit tout sans se cacher. Voilà, tu me poses la question, je réponds direct, et puis voilà. Sans réserve, quoi, en fait. Et c'est hier qu'on s'est vu pour la première fois. Ouais. Puis voilà, aujourd'hui,
on est encore continue, là, tous les deux.
Ouais, on est encore là.
Et tout de suite sur RFI, ils sont sages comme des sauvages.
Tu t'es retrouvé rouge en colère devant la douleur provoquée de l'eau qui tombe sur la terre que ton pied n'a tout pas touché. On t'appelle insulaire, on t'appelle enfanté. Tu deviens le tonnerre qui fait pousser, qui fait pousser. Tu n'existes pas, tu n'existes. La poussière s'anime au premier jour d'été, que la tente est sœur de l'hiver, que la tienne alors t'attendait. S'incline l'ordinaire à l'enfant présenté, qui porte en bandoulière la beauté partagée. Tu n'existais pas, tu n'existais pas.
À Paris, il m'appelait, mais t'es où? Il dit, mais t'es où? Quel côté de la France? Ici à Dijon, quel côté? C'est dans un village qu'on appelle Lentière. Il y a tout l'homme des les pays là-bas, l'Asiatique, tous les Français, Belgique, tout. C'est dans un village. Donc tu es libre. Et puis il y a les gens aussi qui t'intéressent à toi. On a tous ceux qui sont ici, les Français, même qui ont la nationalité française, les Espagnols, tout le monde qui sont ici. Nous tous sommes égaux, on est les mêmes choses. Même je dis, ah, c'est pas moi, c'est la France qui a dit hein. Égalité, fraternité, c'est pas moi.
Liberté.
Liberté.
Et comme on dit, RFI, c'est l'info. C'est l'info, on est en direct de l'info.
Sur RFI, à si loin, si proche, on est surtout cette semaine en direct des Lentillères, ce village dans la ville aux allures de petite république autonome, un renard masqué pour emblème parmi des potagers, des cabanes et des squatteurs, au point levé et à la main verte.
Avec ses baies rouges.
Cynorhodon.
Ouais, c'est ça.
Et ça se mange?
Ouais, complètement. C'est hyper riche. C'est un des fruits les plus riches en vitamine C. C'est beaucoup plus riche que l'orange, le citron, tout ça. Donc c'est mûr en hiver. Et ça devient blette, comme certains fruits, comme les nèfles et tout. Et tu le recueilles quand il est blette. En fait, c'est ce qu'on appelle le poulet gratté aussi. C'est ça le poulet gratté, en fait. Sauf que c'est trop, trop bon, quoi. Par contre, il faut des gants parce que c'est. Énormément d'épines, quoi. C'est vraiment génial.
Il y a le train qui passe. Qu'est-ce qu'on fait ici quand le train passe?
On fait une pause pendant les réunions, parce qu'on s'entend pas. Du coup, c'est un peu. Ouais, c'est une des signatures de cet endroit, c'est que, ouais, il y a ce train qui longe le quartier. Ils passent quand même régulièrement avec beaucoup de trains de marchandises. Donc ils sont assez longs et lents. Et qui font beaucoup de bruit parce qu'ils sont très lourds. On s'entend plus, donc ça fait un temps mort. Et c'est pas mal des fois pour dans les réunions, ça nous permet de réfléchir un moment. Mais bon, quand tu vois le train, tu dis ok, donc ouais, on est dans, un peu dans un autre monde, mais pas tout à fait, parce que tu vois les trucs qui circulent. Des fois, tu as des bagnoles, des trains entiers de bagnoles, de fourgons, enfin, tu sais, des voitures neuves qui vont être vendues, quoi, et qui traversent le pays. Des conteneurs de produits pétrochimiques, à n'en plus finir, tu vois, le train, il fait des kilomètres de long. Là, en ce moment, il y a pas mal de grumes, quoi, tu as beaucoup de troncs d'arbres là, qui passent. Sûrement des trucs qui vont être envoyés en Chine pour être travaillés, puis revenir ici pour faire des meubles Ikea, je sais pas. Je m'appelle Damien et je suis volontaire depuis 2 ans. Ouais, moi, je suis venu apprendre à faire pousser des légumes parce que ça me paraît ultra important comme connaissance à acquérir pour la suite du monde, quoi. Enfin, on a besoin de ça, je pense, dans les temps qui viennent de plus en plus, et l'apprendre le plus tôt possible pour pouvoir le transmettre aux autres. Et puis voilà, moi je suis venu aussi pour soutenir cette lutte que je trouve super intéressante, cet endroit en ville qui n'est pas la ville et qui en même temps n'est pas non plus isolé. Et c'est un lieu hors norme, pour moi c'est une île, quoi. Pour moi c'est un lieu extraordinaire. Et je devais rester 1 an et finalement ça fait 2 ans déjà que je suis là, évidemment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça, même si des gens qui voulaient rester 3 jours et qui sont restés 3 semaines. Moi c'était 1 an et là je suis pas encore parti. Voilà. Ouais, ma vie depuis que je suis arrivé ici, c'est ici, quoi. Je vis que pour ici et tout ce qui se passe autour. Mais en tout cas, j'ai pas de travail à côté. J'ai travaillé avant dans ma vie, mais là je travaille plus du tout de manière salariée. Je vis volontiers. Et si on peut appeler ça du travail, je travaille volontiers dans plein de choses différentes. Mais en gros, ma vie, elle est là-dedans, et c'est passionnant. Et c'est pas que au sein du quartier des Lentières, mais aussi dans d'autres choses qui se passent à Dijon, comme l'engrenage ou d'autres endroits que j'ai envie de défendre, et d'autres luttes et d'autres actions militantes que j'ai envie de faire vivre aussi avec d'autres gens. Et en fait, ma vie, c'est ça, quoi. C'est vraiment vivre ici. Déjà, ça prend beaucoup de temps, parce qu'on n'est pas assisté, quoi. On est beaucoup moins assisté que dans la vie en dehors de ces endroits-là. Et on est beaucoup plus acteur de notre vie. Enfin, j'ai envie de dire, il y a un truc où chaque chose de notre vie, on la pense, on la travaille, on l'invente un peu. Il y a un ami qui est prof à Paris qui est venu me voir et il m'a dit, mais en fait, tous vos gestes sont politiques. Même quand vous allez pisser, c'est politique, quoi.
Pourquoi c'est politique quand vous avez pissé?
Parce que je vais expliquer qu'on avait mis en place un système pour récolter l'urine, parce que du coup on pisse dans la paille, ce qui permet que en fait tous les minéraux et l'azote qui est dans l'urine, et ben on peut la composter, on peut ajouter cette paille au compost. Donc en fait, enfin tu vois, c'est-à-dire que ouais, tu vas même pas pisser dans un trou juste parce que tu as envie de pisser. En fait, tu vas pisser dans un endroit parce qu'en fait ça va être utile aussi pour faire pousser mieux des légumes et tout ça pour la lutte. Enfin, tu vois, bon, bref, un truc comme ça, quoi.
Et c'est en termes de fatigue? Comment ça se passe?
Il y a des moments où je fatigue, ouais, c'est clair. Mais j'étais déjà un peu comme ça avant, mais là, encore plus, c'est-à-dire que je trouve que les journées sont trop courtes. En fait, je crois que j'aime ça au fond, même si ça me fait un peu péter des plombs des fois. Mais j'ai toujours plein de choses que j'ai envie de faire. C'est pas juste que j'ai à faire. C'est que je fais 100 mètres dans le quartier et je vois 4 trucs que j'ai envie de faire. Où je rencontre des gens qui me demandent des trucs, et puis tac tac, ça fait des mises en relation. Enfin, ça n'arrête pas d'être fourmillant comme ça d'activités et de liens et d'idées, quoi. Et en fait, moi je m'ennuie jamais, quoi, jamais. Sauf peut-être. Non, je m'ennuie jamais en fait.
Je m'appelle Étienne, je vis et cultive volontiers depuis quelques années maintenant. Et là aujourd'hui on est dans la dernière parcelle qu'on a occupée chronologiquement. On a avancé petit à petit dans cette zone, dans ce triangle de 9 hectares. Et puis quand on est installé là, ce qui est assez incroyable, c'est que la moitié de notre panorama qui est d'un côté des arbres, des futaies, des buissons, un mur en pierre en lave de Bourgogne. Et puis l'autre moitié du panorama, il est constitué d'immeubles, pour la plupart en construction. En fait, on fait face à ce à quoi on a échappé On va continuer à combattre parce que même si la deuxième phase du projet d'écoquartier a été abandonnée, on n'a pas encore de vision très, très claire et très certaine sur ce que va devenir cet endroit, puisque le maire a annoncé, en même temps que l'abandon, l'obligation pour les personnes qui étaient de signer des baux dans un cadre agricole. Quand il a fait cette déclaration, il a complètement fait fi de tous les autres aspects qui constituent ce quartier, qui sont pour nous complètement inextricables de sa dimension agricole, à savoir les fêtes, les moments de rencontre, les discussions, les débats, tout un écosystème politique, on pourrait dire, quoi, qui s'est constitué petit à petit, qui s'est constitué au jour le jour, sans grand plan, peut-être avec des bases politiques qui défendent des formes d'horizontalité, issues de traditions, on pourrait dire, libertaires, anarchistes, mais qui s'est voulu aussi très pragmatique dans son application et qui a été très tâtonnant, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des décisions qui concernent l'ensemble du quartier sont prises dans des assemblées mensuelles, avec les habitants, mais pas uniquement, avec les jardiniers, et aussi avec tous les gens qui, en fait, quelque part, mettent de l'énergie, placent de l'énergie, construisent, participent activement à la réalisation de ce que sont les lentillères aujourd'hui, quoi.
Comment tu définirais justement cette notion d'autonomie selon la vie que vous menez là au quartier des Lentillères, Étienne ?
Avant toute chose, j'ai l'impression que c'est s'organiser de façon autonome du pouvoir, le plus possible, tant que faire se peut. C'est-à-dire, évidemment, déjà économiquement, quoi, ne pas demander de subsides de l'État, de la mairie, de la région, enfin, ne pas dépendre de subventions, ça c'est quand même une chose. Tenter de s'extraire le plus possible de l'économie de marché, telle qu'elle nous est imposée en ce moment.
Et par exemple, s'extraire de l'économie de marché, il y a cette idée aussi de s'auto-alimenter ici, avec les différents jardins.
Oui, parce que autant on peut aussi parfois confondre autonomie avec autosuffisance. Alors certes, on est autosuffisant sur tout un tas de productions légumières. En revanche, on ne vise pas une autosuffisance absolue sur tout, parce qu'on le met beaucoup aussi en balance avec l'envie d'être en prise avec le monde et tout un tas de gens et tout un tas de luttes, et qu'on ne vise pas l'autarcie pour autant. Il faut peut-être distinguer en effet l'autonomie de l'autarcie. Quand on parle d'autonomie, qu'elle soit politique, économique, on tend vers cela. Évidemment, on n'est pas autonome dans toutes les sphères de nos vies. On ne produit pas nos frigos, nos ordinateurs, des milliers de choses qu'on pourrait citer sur lesquelles on n'est pas autonome ou autarcique. Mais ce n'est pas en soi l'objectif au vu des conditions d'adversité que nous renvoie le monde. Mais on tend vers ça et on tend vers des processus qui se veulent être autogestionnaires. Mais on peine aussi à plein de moments, c'est pas que facile. Donc des fois il y a un peu de fatigue, de désespoir qui peut gagner, mais en tout cas je pense qu'à plein de moments c'est aussi comblé par la joie d'être ensemble, de vraiment se dire ah oui, on a un problème, on va pas le déléguer, quoi, on va s'en emparer. Avec les souffrances et les joies que ça crée, quoi.
Je suis fille irlandaise, poussée par la famine. Je suis fille d'Écossais, venue crever en usine. Dès l'âge de 6 ans, 16 heures sur les machines. Mais Dieu sait que jamais je n'ai courbé les chines. Non, je suis restée droite, là devant les patrons. Même le jour où ils ont passé la conscription, je suis fille de paysan et fille d'ouvrier. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. Je ne prends pas les armes contre d'autres en galère. La 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 la. Je n'aime pas le lys. Je n'aime pas la croix. L'une est pour les curés et l'autre est pour les rois. Si j'aime ce pays, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. Anarchie, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître.
Ni Marie.
La 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 la.
Et normalement on dit des mots après.
Balle patriarca.
Attends, je vais sortir un bouquin.
Depuis peu, on a édité un livre qui s'appelle « Les sauvages des lentillères », qui regroupe, je crois qu'il y a 25 plantes qui poussent de manière spontanée ici, quoi, en sauvage, qui ne sont pas cultivées. Et l'idée, c'était de pouvoir raconter aux gens un peu le... leur faire découvrir le territoire, leur dire bah voilà la petite plante qui est juste à côté de toi ou devant laquelle tu passes tous les jours, bah en fait elle se mange au printemps ou alors elle soigne tel truc. Et l'idée c'était vraiment d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure, qu'il y a des choses très simples en fait qui poussent là et vraiment autour de nous et qui peuvent soigner à peu près une bonne partie des maux de la vie quotidienne et en plus qui peuvent se manger et ça peut être très bon. Les lentillères sont un peu connues pour les jardins, que beaucoup de choses sont cultivées, mais qu'en fait, il y a aussi énormément de choses qui poussent spontanément et qui se modifient au fil des années, parce que des plantes qui poussaient dans des friches, qui ne sont plus des friches, ces plantes-là disparaissent. Par exemple, il y a eu des plantes qui étaient dans ce bouquin, que j'ai dû enlever, parce qu'elles ont disparu entre-temps, et des plantes que j'ai rajoutées parce qu'elles sont apparues entre-temps. Le titre a été trouvé par un habitant des Lentières. Je trouvais très parlant parce que à la fois ça parlait des sauvages, des plantes sauvages qui poussent aux Lentières, qui sont considérées comme des mauvaises herbes et qui pourtant servent à quelque chose, elles ne sont pas là pour rien. Et aussi ça parlait des sauvages, des gens qui sont là. Et je pense pour plein de gens, les gens qui gravitent autour des Lentières... sont des sauvageons, en tout cas des gens à nettoyer au Karcher ou quelque chose comme ça. Et ouais, voilà.
Je suis Tony, j'aide une amie très chère qui fait sa roulotte et dans laquelle je m'investis parce que quelque part, c'est lui rendre un peu la moitié de sa pièce par rapport à ce qu'elle m'apporte, voilà.
Donc là, Morgane, c'est la roulotte que tu es complètement en train de retaper qui sera bientôt ta chambre.
Ouais, du coup, c'est l'endroit dans lequel j'avais déjà ma chambre depuis quelques années, que j'avais acheté sur un site de vente d'occasion. J'ai mis de l'isolant tout autour et j'espère que ça va faire un endroit sympa. J'ai essayé de mettre beaucoup de fenêtres sur cette roulotte parce que y a deux écureuils qui sont mes voisins que j'aime vraiment bien regarder par la fenêtre régulièrement. J'ai l'impression qu'on entretient des liens de voisinage qui sont sympas.
Et toi, Tony, t'habites où ?
J'habite dans le foyer social qui est juste à côté. Voilà.
T'es voisin ?
Oui. Oui, je suis voisin et je suis un voisin qui était circonspect du quartier au départ.
Pourquoi ?
Parce que des gens que je connais pas, des modes de vie que je connais pas. Voilà. Alors, le lien s'est fait petit à petit, hein. Voilà, de fil en aiguille, hein ?
Je vais faire du bruit.
Ok. Et puis de fil en aiguille, après, moi j'ai dormi sur le quartier il y a 9 ans, là, dans une tente, hein, derrière le pot de colle, quand ça avait été un an après le défrichage et tout. Et il y a deux ans et demi, voilà, je me suis dit, mais attends, il y a des trucs que je sais faire, parce que entre temps j'ai fait une formation de charpentier, et des trucs que je sais faire, et ça peut amener... ça peut amener à embellir le quartier, parce que c'est des gens intéressants que j'ai rencontrés aussi, c'est ça. Et quelque part, ça me donnait envie de les aider, quoi.
Il y a un peu un côté de, on va dire, de prophétie autoréalisatrice, de dire si on y croit très fort et si on fait des choses un peu ambitieuses, ben peut-être ça va faire que ça devient un peu sérieux, un peu fort, et peut-être qu'on va vraiment rester et essayer d'être super optimiste comme ça. Il y a un peu de ça quand on commence à faire des chantiers qui s'étalent sur quelques mois. On essaye de réfléchir à comment garder les lieux dans la durée, et ça fait partie de cette dynamique de construction.
En fait, une lutte victorieuse, elle vient poser plein de questions, quoi. S'ouvre un autre chapitre, c'est celui de la pérennisation de cet endroit. Ça pose des questions entre nous, ça pose des débats. Voilà, comment seront les lentillères dans 20 ou 30 ans ? Personne n'est à même de le dire, mais peut-être qu'il faut qu'on commence à vaguement se poser cette question. Comment on habitera ? Comment on cultivera ? Qui pourrait être accueilli ici ? La certitude qu'on a, c'est qu'il y a quelque chose qu'on refusera, c'est que ne soit pas pris en compte l'entremêlement des usages qu'il y a ici. Ce ne sera pas une zone agricole, les lentillères. C'en est déjà une, mais ce n'est pas que ça. Alors, on n'a pas les formules clés, on n'a pas l'accord qui permettrait d'arrêter le caractère illégal du lieu. Et nous, on pense qu'il y a deux façons de le faire. Il y en a une, c'est rentrer dans les cadres du droit tel qu'il existe. Et il y en a une autre, c'est faire évoluer le droit pour ça. Et ça, c'est une des pistes qu'on s'ouvre actuellement en pensant une ZEC, une zone d'écologie communale, qui pourrait être une nouvelle zone dans les plans locaux d'urbanisme, parce que tels qu'ils sont constitués, ils sont complètement incapables de prendre en compte, de prendre en considération l'existant ici, mais dans d'autres endroits, comme à Notre-Dame-des-Landes, comme à Louvain-la-Neuve en Belgique, c'est-à-dire un endroit où on n'affecte pas un seul usage à un territoire. À l'heure où on prône la démocratie participative, la prise en charge par les habitants de leur lieu de vie, de leur territoire, on pense qu'on est vraiment les mieux placés pour le faire, et pour le faire dans des formes qui n'existent que peu encore, quoi, et qu'on pense qu'ils vont reprendre un peu de vigueur et de force, mais notamment comment on partage ce commun, ce bien précieux qu'on a entre les mains là, qui a été préservé de la bétonisation au cœur d'une ville. Et du coup, à un moment, est-ce que le droit il se met en adéquation avec l'existant, ou est-ce que l'existant
impose une jurisprudence?
On pourrait essayer de mettre un coup de pied dans cette fourmilière là, quoi. C'est un petit pari qu'on va peut-être pas gagner, mais qu'on va peut-être tenter en tout cas, quoi.
Comment inventer, construire et écrire la suite du monde? Vous pouvez retrouver en podcast les 3 épisodes de cette série de Sarah Lefebvre. Merci au collectif du quartier libre des Lentillères et à ses voisins pour leur accueil. Un immense merci à Sarah Lefebvre pour ce long et riche travail de reportage. Et un immense merci également à Laura Larry pour la réalisation et conception sonore de cette série élaborée en commun. Auditeurs si loin si proches, merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour d'autres voyages. Géopolitique.